Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, l'extension du pass sanitaire, est-il conforme à la Constitution? Avis très attendu des sages en fin de journée, les antipasses retiennent leur souffle. Très décriées notamment les nouvelles dispositions pour les bars, restos et hôpitaux à compter de lundi prochain. Les autres titres, Laurence.
Des vaccins pour les pays pauvres et pas de troisième dose avant d'avoir vacciné le reste du monde. Un appel de l'OMS qui a peu de chances d'être entendu. Quand le fisc grec s'attaque aux fonctionnaires français, douche froide pour quelques Français rattrapés par les services des impôts. Un retour inattendu sur la scène musicale, l'ex Daft Punk Thomas Bangalter va composer la musique d'un ballet du chorégraphe Angelin Prelzlokave. À Tokyo, le français Kevin Mayer s'accroche, le décathlonien blessé peut encore espérer une médaille de bronze. Il est quatrième pour l'instant au classement provisoire.
Les invités de la matinale à 7h50, un point sur la saison touristique à mi-parcours, sur le pass sanitaire aussi pour les expatriés. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie au micro inter dans trois quarts d'heure. Et puis à 8h20 dans le grand entretien, Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Qui sont les patients aujourd'hui en réanimation? Faut-il le vaccin obligatoire pour tous? Une troisième dose? Garder le masque même si on est vacciné? On lui posera nos questions. On attend les vôtres aussi, chers auditeurs. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Ça passe ou ça casse, les sages du Conseil constitutionnel doivent valider ou pas la stratégie du gouvernement sur le projet de loi sanitaire, verdict cet après-midi. Le texte prévoit notamment, dès lundi prochain, l'extension de ce pass aux trains grandes lignes, aux vols intérieurs, aux patients non urgents et visiteurs des établissements de santé et maisons de retraite, mais aussi aux cafés, aux restaurants. Et ils attendent avec impatience de savoir ce que les sages vont décider, Marianne Naquet.
Derrière son comptoir, Claudine, serveuse dans un café du 10e arrondissement à Paris, est anti-pass sanitaire. Elle espère que le Conseil constitutionnel va mettre son veto.
On ne devrait pas demander le pass au restaurant. Déjà, ça devient de plus en plus difficile. Si en plus on impose le pass, comment voulez-vous une clientèle qui n'est pas vaccinée, que l'on côtoie tous les jours, va leur dire non, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas votre pass? On ne peut pas faire ça.
À quelques mètres, la terrasse d'Étienne est noire de monde. Le giron est plutôt pour le pass sanitaire, mais pas sur les terrasses, trop difficile à gérer.
Autant à l'intérieur, pardon, à l'entrée, on peut mettre quelqu'un, on peut mettre un dispositif pour pouvoir gérer ça. Autant dehors, oui, ça va être très très compliqué.
Dédier un serveur à cette mission, embaucher quelqu'un, il attend l'avis des sages pour se décider. Son collègue du bar d'en face, Stéphane, lui, est juste fatigué. Il aimerait que ce soit enfin tranché.
On commence à être un peu au bout du rouleau, ouais. On commence à en avoir un peu marre de toutes ces restrictions et que ça nous vise en fait sans arrêt. Nous, t'as peu, on l'a sait plus d'un, ouais.
Comme Jérémy, inquiet pour son chiffre d'affaires, il s'attend à perdre des clients si le pass sanitaire est validé.
Oût, on sait que ça va être très très calme. Ce qui va être un petit peu compliqué, c'est en termes d'explication par rapport aux touristes qu'il pourrait y avoir. Et on verra quoi, on verra.
Dans tous les cas, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a promis que des aides continueront d'être versées aux restaurateurs pour compenser les pertes de chiffre d'affaires.
Marianne Naquet, le pass sanitaire, c'est, rappelons-le, la preuve d'une vaccination, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19. Un pass sanitaire qui est loin de susciter le rejet des Français, malgré la mobilisation dans la rue des antipass. Seulement 37% des Français les soutiennent, d'après un sondage élaboré pour le journal Les Échos. Quant à une éventuelle vaccination obligatoire pour tous, et bien toujours selon cette enquête, 61% des Français y seraient favorables. La mesure était clairement discriminatoire. Marche arrière de Londres, le gouvernement britannique annonce que les voyageurs vaccinés en provenance de France pourront entrer au Royaume-Uni sans faire de quarantaine. Quant aux voyages aux États-Unis, dont les frontières sont fermées à de très nombreux étrangers, dont les Français, la Maison-Blanche fait savoir ce matin qu'elle projette de rouvrir son pays aux voyageurs vaccinés. Un sujet dont nous reparlerons évidemment avec votre invité Hélène à 7h50. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme.
En attendant, pas de troisième dose tant que le reste du monde n'est pas vacciné. C'est l'appel du patron de l'OMS. Il a peu de chances d'être entendu.
Les États-Unis ont déjà dit non à cette idée de moratoire. L'un n'exclut pas l'autre, dit en substance le porte-parole de la Maison-Blanche. Il assure que les États-Unis peuvent vacciner leur population avec une troisième dose et aider les pays pauvres en même temps. Des pays qui ont pris beaucoup de retard dans la vaccination par rapport aux pays riches. Mais cette idée de moratoire ne devrait pas inverser la tendance. Jérémy Lanche à Genève.
Sur les 4 milliards de doses qui ont été administrées, 80% l'ont été dans les pays riches et développés, alors qu'ils représentent moins de la moitié de la population mondiale. Ailleurs, la vaccination ne décolle pas, comme en Afrique, où moins de 2% des habitants sont complètement vaccinés. Le taux n'a pas changé depuis des semaines, voire des mois. Dans ce contexte, parler d'une troisième dose de rappel n'a aucun sens, martèle le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas accepter que les pays qui ont utilisé la plupart des vaccins disponibles les utilisent encore plus, alors que les personnes les plus fragiles ne sont toujours pas protégées. Il faut absolument que nous renversions la tendance et que la majorité des vaccins n'aille plus aux pays riches, mais aux pays pauvres.
Les troisièmes doses sont déjà utilisées en Israël pour les plus de 60 ans. L'Allemagne et la Suède devraient suivre à la rentrée. L'OMS prévient que les études sont encore trop limitées pour conclure à l'efficacité d'un rappel et surtout quand l'administrer. Mais que ce soit l'appel à la solidarité ou l'appel à la prudence, le moratoire a peu de chances d'être appliqué. Les pays riches préférant mettre en avant leurs promesses de dons aux pays pauvres plutôt que de renoncer à passer de nouvelles commandes auprès des fabricants. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et d'ailleurs, la France va donner 3 millions de doses à l'Indonésie, dont 1,3 million d'ici la fin du mois d'août. C'est un tweet d'Emmanuel Macron hier soir. L'Indonésie qui a passé le cap des 100 000 morts du Covid.
7h06, le feu aux portes d'une centrale thermique en Turquie.
Des centaines de personnes évacuées par la mer alors qu'un violent incendie se rapproche dangereusement d'une centrale thermique où sont stockées des milliers de tonnes de charbon. Et puis en Grèce, une dizaine de villages sont actuellement entourés par les flammes sur l'île d'Eubée à 200 km d'Athènes. Les habitants sont appelés à quitter leur maison et à se rassembler sur la plage. La Grèce encore, mais tout autre chose. Des résidents français en Grèce sont sous la menace d'un redressement fiscal plutôt carabiné. Athènes veut revoir la convention fiscale signée avec la France, elle date de 1963, alors même qu'un autre texte est en cours de préparation. Alors le premier document est toujours en vigueur, mais il est rempli d'ambiguïté et jusqu'à présent, jamais les résidents français de Grèce n'avaient été confrontés à une double imposition. Or, depuis le mois de décembre, certains sont soumis à d'importants redressements fiscaux sans avoir été prévenus. Louise Aura.
Une vie qui bascule sans prévenir du jour au lendemain, c'est la situation dans laquelle se retrouve Sylvie, retraitée en France aujourd'hui. Enseignante en Grèce à la rentrée 2014 seulement, le fisc grec lui est quand même tombé dessus en décembre 2020.
J'ai été taxée sur la totalité de l'année, 11 600 euros d'impôts plus 6 000 euros d'amende. Bien entendu, les informations étaient que nous étions imposables en France. J'avais pris mes renseignements avant et jamais je n'aurais accepté ce poste si j'avais su que ça me poserait autant de problèmes.
Des problèmes encore non résolus, Sylvie est dans l'attente d'une protection juridique. Cette autre enseignante au lycée franco-hellénique d'Athènes a elle aussi toujours payé ses impôts en France. Elle réside depuis une vingtaine d'années en Grèce et elle s'inquiète pour les années à venir.
Moi j'ai compté que si je suis redressée pour les années 2015 jusqu'à ce que la nouvelle convention soit mise en place, ça devrait représenter entre 60 et 100 000 euros, ce qui veut dire que je vends la maison en Grèce pour pouvoir payer ses dettes.
Les services fiscaux français ont donné raison à la Grèce, mais les résidents et anciens fonctionnaires demandent à l'État français de suspendre les redressements en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale.
En tout cas, une demande restée pour l'instant sans réponse de la part des autorités françaises. Un contrôle routier qui tourne au drame à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Un homme d'une vingtaine d'années a été mortellement blessé hier soir par le tir d'un policier au cours d'un contrôle dans le 3e arrondissement de la ville. Récit de Corinne Blotin.
Selon le syndicat de police Alliance, tout a commencé la veille alors que l'homme refusait de se soumettre à un premier contrôle de police et prenait la fuite avec son véhicule. Hier, en fin d'après-midi, une patrouille repère le véhicule en question et identifie l'homme comme étant le conducteur récalcitrant de la veille. Les policiers tentent de l'interpeller. L'homme aurait alors fait une marche arrière pour tenter de fuir de nouveau, renversant un policier qui se trouvait derrière son véhicule. Un autre policier fait usage de son arme et tire sur l'occupant, le touchant au thorax. L'homme qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers a succombé à ses blessures. Le policier percuté est, lui, blessé à la jambe. Le parquet est saisi de l'enquête.
Corinne Blotin.
C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin à l'Opéra de Bordeaux. L'ancien Daft Punk Thomas Bangalter va composer de la musique pour un ballet.
Le ballet Mythologie avec 20 danseurs sur scène. C'est un changement radical de style pour l'ancien Daft Punk puisqu'il se frotte à l'orchestration symphonique. C'est ce qu'a annoncé hier l'Opéra National de Bordeaux. Thomas Bangalter travaille avec le chorégraphe Angelin Prel-Jocave pour une œuvre intitulée Mythologie. Elle sera jouée en juillet prochain. Un mélange des genres. Bienvenue pour Olivier Lombardi, l'administrateur général de l'Opéra National de Bordeaux.
Thomas Bangalter avait envie de se lancer dans la composition d'une œuvre symphonique. Thomas avait besoin d'un artiste comme Angelin pour être sûr de lui. Il avait envie de changer d'horizon. D'ailleurs, c'était avant la séparation du groupe Daft Punk, mais j'espère que ça n'a pas provoqué cette dissolution. En tout cas, il a commencé à envoyer ses morceaux. On était tous enthousiastes. On a commencé à écouter les débuts de composition, mais on n'en est pas encore à l'orchestration. Donc, il y a encore du travail. Ah, je vous promets que ça va être absolument fantastique. Pour nous, c'est formidable d'avoir un musicien contemporain venant de l'électronique, connu dans le monde entier, qui s'intéresse à la musique symphonique. Ça casse les frontières, ça casse les codes des musiques savantes et des musiques actuelles. Thomas Bangalter et Daft Punk avaient déjà fait des musiques de films, pour Tron notamment. Donc je pense que ce sera surprenant. Ça surprendra aussi bien les amateurs de musique classique que les fans de Daft Punk.
Olivier Lombardier, l'administrateur général de l'Opéra National de Bordeaux avec Cyril Ardo. On est impatient d'entendre quelques notes. Direction à présent Tokyo pour les JO où l'on suit toujours le décathlonien français Kevin Mayer. Le recordman du monde touché au dos pointe à la 4e place provisoire. Il dispute en ce moment le saut à la perche et il lui restera 2 épreuves. Malgré la douleur, le sportif s'accroche et il peut toujours espérer une médaille de bronze, Jérôme Val.
Incroyable, Kevin Mayer. Il ne lâche rien à l'image de ce concours de la perche qui est toujours en cours, la 8e épreuve de ce décathlon. Et Kevin Mayer tente le tout pour combler une partie de son retard. Il a fait l'impasse sur le début du concours pour se frotter immédiatement à une barre à 5 mètres passée à son 2e essai. Il vient de réussir un saut à 5 mètres 20. C'est vrai qu'au fil de la matinée, que ce soit sur le 110 mètres où il a fait mieux qu'à Rio il y a 5 ans ou sur le lancer du disque, Mayer a marqué des points. Et si la médaille d'or semble maintenant hors d'atteinte, le Canadien Damian Warner étant vraiment au-dessus du lot, le Montpelliérain a toujours dans son viseur la 3e place synonyme de médaille de bronze. 3e place occupée pour l'instant par un autre Canadien, Pierce Lepage, qui lui, à la perche, n'a pas fait mieux que 5 mètres. Il n'y a donc plus que 36 points entre les deux décathloniens. C'est très peu. La 2e place, elle, est à 140 points. Là aussi, c'est atteignable. Alors qu'il reste, vous l'avez dit, 2 épreuves à disputer ici dans la soirée, le javelot et le 1500 mètres. Alors, quelques centimètres de plus au javelot ou quelques secondes en moins sur le 1500 sur ses adversaires. Et Kevin Mayer pourrait réussir son pari fou, une médaille malgré sa blessure.
Oui, un pari fou. Merci Jérôme Val, vous étiez en direct des Jeux Olympiques de Tokyo.
Et on y retournera à 7h20 avec tous nos envoyés spéciaux. On parlera aussi notamment de vélo. Merci Laurence Thomas. Dans une poignée de minutes, le zoom de la rédaction. Ce mois d'août, nous retournons voir ceux qui ont été au cœur de l'actualité. Eh bien, ce matin, les assistantes sociales. L'une d'elles a été tuée il y a 3 mois. Le malaise de toute une profession, c'est à 7h15.